Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour!
Bonjour!
Alors aujourd'hui, nous avons prévu de reprendre un thème qui est un peu transversal parce qu'il concerne différents aspects à la fois de la vie collective et de la gouvernance dynamique. Il s'agit de la posture.
Alors oui, la posture, c'est vraiment un sujet très très peau de banane, comme on dit, parce que à travers ce mot, on a vraiment différentes interprétations possibles et surtout quelque chose qui est très difficile à assumer. Dans le sens où, si on parle de posture, on va parler d'une bonne posture, mais du coup...
D'une mauvaise posture.
C'est ça.
Et on revient dans cette dualité qu'on essaye de ne plus nourrir autant, parce qu'on en connaît les effets, d'être du côté du bien, d'être le représentant du bien, d'être l'ambassadeur du bien. On sait que ça fait le lit aussi de certains conflits, de certaines difficultés, et qu'en soi, c'est déjà une violence. Donc, comment est-ce qu'on peut parler, évoquer la posture en évitant ce risque? C'est ce qu'on va explorer un petit peu avec vous maintenant. Peut-être qu'on peut déjà essayer de définir ce que l'on entend par le terme posture, parce que comme tu me le disais tout à l'heure en off, c'est un peu un mot valise qui veut tout dire et rien dire. Quand on parle de posture relativement à nos thématiques, qui sont le collectif, la vie en collectif, la relation, aussi la pédagogie et la relation à l'enfant, parce que ça touche à ça aussi. Et nous, à la Ferme des enfants, nous avons tout un document qui fait plusieurs pages, qui s'appelle « La posture de l'adulte ». Donc, cette posture-là, elle est à définir peut-être pour comprendre de quoi on parle, de quelle est l'intention de cette définition.
Oui, parce qu'on va donc, du coup, beaucoup plus parler de posture comportementale dans cette histoire. Et ça nous renvoie vraiment à notre capacité à être en relation avec l'autre d'une certaine manière. Et voilà, et c'est pour ça qu'on retombe dans le piège. Oui, mais alors, du coup, il y a une bonne manière et une mauvaise manière, mais disons que cette histoire, c'est de trouver une façon qui produise des effets qu'on souhaite cultiver dans notre collectif ou demain dans notre entreprise ou après-demain dans notre école. L'idée, c'est qu'en fait, la posture, elle recoupe vraiment tous les aspects de nos vies.
Y compris dans la vie personnelle et familiale, la vie de couple, etc. Cette histoire de posture, elle vient nous chercher et nous questionner dans tous les aspects de nos vies où il y a de la relation. En fait, je pense que le mieux, le plus simple, c'est qu'on parle de nous et de ce qu'on vit depuis 25 ans et de l'évolution qui est la nôtre à l'intérieur, parce que c'est vraiment l'expérience qu'on fait de la posture et qu'on est passé d'une posture où on était un peu les apôtres du bien avec toutes nos formations, la communication non violente, nos grandes idées sur l'écologie, sur l'humanité, sur... la paix, sur la relation, sur le travail sur soi aussi. Ça, c'est un truc qu'on nous a beaucoup reproché. De renvoyer les personnes à aller travailler sur elles pour se défaire de leur pathologie, de leur stress, de leur névrose et éviter de les mettre au cœur du collectif ou dans la relation avec leur enfant, pour ce qui me concerne dans ma fonction de direction d'école.
Alors, comment on passe d'être les apôtres du bien où effectivement on s'est aperçu que c'était une énorme peau de banane qui ne faisait même qu'attiser en pointant du doigt ce qu'il ne faut pas faire.
Dès lors qu'on pointe du doigt ce qu'il ne faut pas faire, il y a un endroit qui n'entend pas ce que l'autre est en train de manifester ou d'exprimer. C'est un peu comme en éducation, en fait, hein, avec un enfant. Si il vient nous dire « Ouais, je suis super, super triste parce que j'ai cassé mon vélo et que... la seule réponse qu'on lui fait, c'est que c'est pas bien, tu n'as pas pris soin, tu n'as pas été un bon garçon ou une bonne fille. Ben, on passe complètement à côté de ce que l'enfant est en train d'exprimer à ce moment-là et de ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Donc c'est une forme de censure ou de négation de ce que l'autre est en train de vivre. Mais accueillir ce que l'autre est en train de vivre, ça ne veut pas dire non plus tout accepter, parce qu'il y a aussi cette notion qui peut être inquiète en chacun de nous. Et qui est, mais si je ne rappelle pas quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes intentions, quel est le rêve que j'ai envie de vivre avec l'autre en collaboration ou en coopération avec l'autre, j'ai l'impression que je vais abandonner une partie qui est vraiment super importante pour moi et que j'y renonce. Mais c'est pas y renoncer non plus. Donc c'est vraiment pouvoir accepter profondément que l'autre, c'est l'autre, qu'il est comme il est, là où il en est, et que je ne suis pas à ses côtés pour le féliciter ou le censurer ou donner mon approbation ou ma désapprobation à ce qu'il est ou à ce qu'il manifeste, en fait. La posture, c'est de s'occuper de soi, en premier lieu. C'est de voir quand l'autre, il fait des choses qui me sont désagréables ou que je n'approuve pas. C'est pas qu'est-ce que je fais de lui, ni qu'est-ce que je fais de notre relation. La première question à se poser, c'est: qu'est-ce que je fais de moi dans cette stimulation? Qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je suis stimulée par ces comportements? C'est vraiment la première question, la première chose à accueillir, sans doute.
Ouais, donc tu pourrais dire qu'on a commencé nos travaux à l'époque où on a démarré le premier éco-village dans une certaine posture, et que cette posture-là était finalement encore très 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 manichéenne finalement, c'est-à-dire
que...
On était dans ce qu'il faut être pour que ça marche. Donc on s'était dit, voilà, communication non violente, avec tous les comportements bienveillants, etc. Et au final, cette injonction, finalement c'est une injonction, devient contre-productive et même provoque l'inverse de ce qu'elle est censée apporter, quoi.
À l'époque, nous étions les ambassadeurs du bien, les tenants du bien, les représentants d'une charte éthique que nous avions écrit tous ensemble. Et en tant que responsable, on se sentait aussi responsable de ces accords. Et lorsque un ou des habitants nous paraissaient transgresser ces accords-là, ce sens aigu de la responsabilité qu'on a, toi et moi, faisait qu'on se plaçait face à eux pour dire: là, on n'y est pas. Là, l'attitude ne convient pas. Ce n'est pas de la communication non violente, ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas du respect, puisque notre charte était basée sur ces notions-là. Et ça a été extrêmement mal vécu. Même si nous n'étions pas les seuls à amener ces notions au centre des discussions, il se trouve que c'était quand même très très souvent nous, et en particulier très souvent moi. Et je m'aperçois, en regardant le tableau de loin, a posteriori, que ça a pu être vécu comme une violence, comme une fin de non-recevoir, comme quelque chose qui, quelque part, chez l'autre ou les autres, pouvait hurler: tu ne nous considères pas vraiment, tu ne nous acceptes pas dans la réalité que l'on traverse, tu nous juges, tu te positionnes en censeur, plutôt que dans une relation. Je trouve ça vraiment passionnant, parce que je mesure chaque jour un peu plus, et au fil de mes recherches et de mes découvertes, à quel point la relation, c'est vraiment la thématique centrale, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes. Et qu'on peut encore aller beaucoup plus loin dans la manière de prendre soin de cette relation et dans la compréhension qu'on en a.
Donc ça veut dire que si, par exemple, une personne manifeste un comportement qui pourrait sembler incohérent, par exemple,
ou violent.
Ou violent même, alors je fais quoi ?
Alors déjà, ce qui est important de voir, c'est que ce qui fait violence à l'un ne fait pas forcément violence à l'autre. En fonction, bien sûr, de nos héritages qui peuvent être culturels, qui peuvent être traumatiques, qui peuvent être éducationnels. Je peux prendre un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, aurait un très fort besoin de reconnaissance et puis qui exprimerait face au groupe ou dans la relation beaucoup de paroles où il a envie qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien, qu'il est important, qu'il va revendiquer le mérite de certaines actions dans le groupe, etc. Il y a des gens pour qui ça peut être insupportable, et puis d'autres personnes pour qui c'est totalement acceptable et pour qui c'est léger. Et la personne pour qui c'est insupportable pourrait développer des jugements vis-à-vis de ce comportement et surtout de cette personne, parce qu'il va y avoir une identification entre le comportement et la personne, et avoir une sorte de d'aversion pour cette personne et pour le fait de devoir partager des espaces, des discussions, des actions avec cette personne. Et
Et petit à petit, ça peut aussi se transformer en conflit parce que la personne qui supporte mal ses comportements va se mettre en réaction, va avoir elle-même des paroles tranchantes, du rejet. Et de fil en aiguille, quand on est dans un groupe qui fonctionne ensemble au quotidien, donc où il n'y a pas l'espace suffisant pour se protéger de cette relation ou pour s'en détourner, ben ça peut devenir conflictuel au sein du collectif. Ça peut devenir comme une épine dans le pied du collectif. Et c'est un peu ce qu'on vit, nous, en ce moment, avec deux personnes, notamment, qui ne s'entendent pas et qui s'activent mutuellement dans des ressentis d'insécurité. Enfin, l'un insécurise l'autre et vice-versa. Donc, ce qui fait la différence entre des personnes qui vont s'agacer mutuellement, parfois jusqu'à la détestation, hein, et des personnes pour qui c'est plus léger et qui laisse aller, qui laisse vivre la chose, mais qui ne se sentent pas mises en danger ni trop activées émotionnellement par les comportements. C'est vraiment cette question de la posture intérieure. C'est comment je prends soin de ce qui est fragile en moi.
Alors, comment tu décrirais ça? Parce que, par exemple, très bien, on a deux personnes qui se détestent cordialement après avoir vécu plein de situations qui les ont mises dans cet état-là. Et si je le ramène à nous, comment est-ce que nous on fait quand on a une personne comme ça qui va nous renvoyer une forme d'antipathie, hein, quelque chose qui va être assez fort, où on va se dire non mais cette personne-là, oh là là, qu'est-ce qu'elle est comme ci, qu'est-ce qu'elle est comme ça, même si on se défend d'essayer d'être dans le non-jugement, bah, en fait, on a au minimum des ressentis de rejet par exemple, hein, sans aller même plus loin que ça, mais on le sent intérieurement qu'on rejette certains comportements que peut avoir une personne et qui sont des comportements qui pour elle sont naturels, par exemple. Hein. Et du coup, on se retrouve dans des confrontations comme ça, intérieures, en fait. Et c'est ce que ça nous a appris, je crois, de cette histoire, c'est de plutôt que d'aller vers la personne, si on ne se sent pas prêt, notamment, hein, parce que si je vais vers la personne dans un état de total apaisement, de tranquillité, etc., bon, il est probable que je puisse lui dire un petit peu ce que je vis et que ça puisse se construire ou qu'elle puisse faire plus attention à certains comportements qu'elle peut avoir parce qu'elle a peut-être pas eu envie de me blesser, son intention n'était pas là ou quoi. Mais ce qui est souvent le cas, et c'est ce que moi, ça m'a beaucoup appris, c'est que, en général, quand on se permet d'aller voir une personne pour, entre guillemets, lui partager un ressenti pénible ou quoi, on n'y va pas forcément dans un état émotionnel stable. On y va souvent dans un état qui est perturbé et qui, du coup, prend l'allure de reproche, prend l'allure d'une forme de rejet, en fait, que la personne perçoit, de désapprobation au minimum. Et du coup, c'est ça qui fait le lit après d'une problématique qui s'amplifie, quoi. Alors que si, effectivement, je peux d'abord voir que cette personne-là, vraiment, elle m'agace très fortement. Ah, waouh, cette personne-là m'agace. Ok, je prends l'info. Et à partir de cette information-là, en fait, et là, on va peut-être parler de posture, justement, et de se dire, ben, quand ça m'arrive, ma posture, ce sera de ne rien faire et de m'occuper de moi. C'est-à-dire que si, comme ça, je me sens agacé ou quoi par une personne, la première règle, un peu une règle d'or, ça va être surtout ne pas agir à partir de l'endroit où je suis agacé. Donc, ne rien faire.
Alors, ça ne peut pas être une injonction non plus. C'est tout à fait possible de réagir, de s'emporter. Ça peut arriver. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les personnes à qui ça arrive occasionnellement, mais qui ne laisse pas cet événement durer dans le temps, en fait. Et qui sont capables de revenir même vers la personne, soit pour dire « bon, bah, c'était pas génial notre discussion, ou je suis désolée, vraiment, ça m'a beaucoup activé ce que tu as fait, et c'est pas mon rêve d'interagir de cette manière-là, et j'aimerais bien qu'on trouve peut-être un autre espace ou un autre temps pour une discussion plus calme ou quelque chose comme ça. » Mais surtout que dans son cœur, on n'a pas de ressentiment pour la personne. En fait, moi, je crois que pour moi, c'est vraiment ça. Lorsqu'on commence à ne plus avoir confiance en quelqu'un et vraiment qu'on le prend en grippe, vraiment, c'est comme s'il n'y avait plus moyen après d'avoir des échanges et une relation de très bonne qualité. Parce qu'il y a quelque chose qui est sans arrêt entaché par un sentiment d'insécurité ou un sentiment que l'autre va nous nuire ou nous duper ou nous porter préjudice. Et que quelque part, on va déjà rentrer un peu, mettre le pied dans le triangle victime-bourreau-sauveur. Et à ce moment-là, c'est très difficile pour moi en tout cas de reconquérir une relation d'excellente qualité. Et je vois que pour y arriver, j'ai besoin d'être vraiment à l'intérieur de moi, de me rappeler que j'ai fait un choix d'accueillir les gens qui sont autour de moi de manière assez inconditionnelle, en dépit de leur comportement, leur histoire, leur attitude. Et que des fois, c'est hyper compliqué parce que quelqu'un qui va être très agressif, par exemple, c'est assez automatique que ça nous mette en insécurité. Donc comment est-ce qu'on arrive à dépasser cette insécurité-là pour arriver à retrouver vraiment la confiance à l'intérieur qu'on n'est pas en danger et que c'est OK que l'autre personne soit dans l'agressivité, qu'elle est juste en train d'exprimer quelque chose qui est peut-être important ou peut-être une limite pour elle, mais que ça n'est pas dangereux. Et je vois qu'il y a vraiment une différence pour moi entre des attitudes, des comportements qui pourraient être dangereux et des attitudes et des comportements qui, au fond, ne le sont pas parce que c'est juste l'expression d'une habitude comportementale ou d'une blessure très récurrente, très profonde ou d'un état d'être qui ne m'appartient pas, en fait, qui appartient à l'histoire de la personne et que je peux accueillir sans danger. Et récemment, on a eu une autre histoire où il y avait un danger parce qu'il y avait une histoire de deux chiens très agressif et la personne ne semblait pas prendre la mesure et la responsabilité de son chien, de l'attitude de son chien. Et là, j'ai vu que pour moi, il y a eu vraiment l'expression d'une colère et de quelque chose de très ferme qui n'a pas forcément ménagé la personne en face. Mais c'est comme si cette insécurité-là que je ressentais en moi, elle était vraiment légitime parce qu'il y a vraiment un danger. Mais que la plupart du temps, quand on est en insécurité, c'est plus de l'insécurité psychologique qui vient taper sur des zones de nous qui sont fragiles, qui ont peur de manifestations qui sont sans doute connues, qu'on a connues dans des moments où on était en vulnérabilité, comme dans l'enfance, etc. Et que quand elles se représentent, il y a quelque chose qui est un peu paniqué ou sidéré et qui n'arrive pas à faire face. Donc c'est à cet endroit-là que je peux travailler. Ces endroits-là, je peux vraiment les travailler en moi pour pouvoir retourner vers l'autre et accueillir que oui, il est en colère, ou oui, il manifeste des comportements qui sont grossiers ou qui sont irrespectueux ou dérangeants, d'une certaine manière. Il y a quelqu'un au dernier festival Oasis qui m'a dit... J'ai animé un atelier et puis à la fin, il y a quelqu'un d'un écolieu qui m'a dit « De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est vraiment l'amour des humains quoi, qui peut nous aider. » Et je suis assez d'accord avec ça. C'est un grand mot, là aussi, galvaudé, qui est, tu dirais, un mot valise dans lequel on a mis beaucoup de choses qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Je suis assez d'accord et c'est là que c'est très satisfaisant, en tout cas pour moi, parce que ça m'oblige, en fait, à vivre cette valeur universelle dont on parle tant, mais qui finalement est sans arrêt défiée, sans arrêt par tout ce qui nous arrive au quotidien. Et cette posture, elle nous parle de ça, de vraiment comment je fais pour être avec les autres dans un endroit de paix. En fait, vraiment, comment je fais? Et c'est valable en facilitation, hein. Toi, tu le vis beaucoup. Dès lors que, si tu es facilitateur dans un groupe, tu as une personne qui t'active, par exemple, une personne que tu n'apprécies pas, que tu trouves absurde dans ses positions, dans ses propositions, ou que tu as une forme de mépris pour elle parce que tu la trouves, je ne sais pas, feignante, ou qu'elle te met en insécurité parce que c'est une personne qui va être agitatrice, par exemple. Eh bien, dès lors qu'on perd complètement la confiance et sur un plan l'estime de cette personne, ça peut être très très compliqué ensuite d'avoir une facilitation qui soit juste.
C'est marrant parce que quand tu parles du mot facilitation, tout de suite, moi, ça m'évoque une certaine forme de switch intérieur, tu vois. C'est-à-dire que la facilitation, c'est un rôle. Donc le rôle n'est pas la personne. Donc moi, quand je vais rentrer dans mon costume de facilitateur, Laurent Bouquet n'existe plus. Il n'a plus aucune valeur en tant que tel, dans le sens où c'est le costume de facilitateur qui imprime sa marque de permettre à un groupe de prendre une décision, de suivre une orientation, etc., etc. Donc tout ce que permet un facilitateur. Donc du coup, là, à cet endroit-là, ça peut être n'importe quelle personne dans le cercle que je facilite. Elle peut m'agacer, elle peut ci, elle peut ça. Ça n'a pas lieu, en fait, d'être. Parce que cette posture-là, en fait, prend le pas sur l'ensemble des autres choses. Et si malgré tout, parce que je reste un être humain, ça devait arriver, alors la posture du facilitateur, c'est de dire « Ah, je suis sorti de mon rôle de facilitateur, là. Je suis en train de voir, de vivre un truc que j'avais pas prévu et qui m'empêche de tenir mon rôle et ma posture de facilitation. » Puisqu'effectivement, un facilitateur, dans la posture, il doit être neutre, il doit être impartial, etc. Il y a tout un tas de critères qui font qu'un facilitateur permet vraiment à un groupe d'accoucher d'un certain nombre de choses qui sont justement beaucoup plus fluides grâce à lui que si un groupe était un peu abandonné à lui-même ou alors devait se dépatouiller sans méthode et sans personne un petit peu qui vienne apporter justement une contribution pour que cette réunion se passe du mieux possible. C'est vraiment intéressant parce que du coup, cette notion de posture, là, on peut la voir de manière très claire, très précise. Est-ce que ça va me demander, moi, en tant qu'être humain, qui prend à un moment donné le rôle de facilitateur, c'est de toujours avoir le recul de me demander si je suis bien encore dans le costume ou pas. C'est tout. Et de pouvoir dire, si jamais ça m'arrive, moi, j'ai beaucoup de chance que ça me soit quasiment très peu arrivé, en fait, parce que je me sens bien dans ce rôle, en fait. J'adore ce rôle de facilitation, donc du coup, je le fais de façon assez naturelle. Et pour moi, je crois que c'est une façon aussi de réparer mon histoire personnelle, du coup, tu vois. Et donc, c'est pas pour rien que je m'épanouis là-dedans, mais du coup, ça va être assez facile pour moi de garder quelque chose qui est l'écoute du centre, qui est l'écoute de la raison d'être, indépendamment des personnes dont je fais partie. Voilà. Donc, pour revenir dans cette danse-là avec les autres, dans cette danse relationnelle dont tu parles, c'est vraiment de pouvoir aussi discerner à l'intérieur de soi quand on est sorti de cet accueil dont tu parlais, cet accueil un peu inconditionnel, parce que du coup, moi, quand je suis dans le rôle de facilitateur, je peux accueillir tout le monde. J'ai pas de sujet conflictuel intérieur à ce moment-là. Même quelqu'un qui m'agace, je l'accueille sans problème et je vais chercher pourquoi. Plutôt que m'occuper de ce qu'elle m'agace, parce que ça, je m'en fiche quand je suis facilitateur. En revanche, si cette personne qui m'agace a une objection, je vais y aller avec la même intensité qu'avec n'importe qui d'autre qui ne m'agacerait pas pour aller chercher c'est quoi ton objection, on va tester l'objection, on va regarder les arguments pour, les arguments contre, on va demander la contribution des collègues, des pairs, pour voir si oui ou non on peut lever cette objection, est-ce qu'elle est valable, pas valable, etc. Au même titre que quelqu'un qui ne m'agacerait pas.
C'est exactement la même chose qu'on vit en médiation. Parce que le médiateur aussi a ce rôle avec cette déontologie de devoir accueillir les deux parties sans imprimer, sans opposer de filtre à la relation avec l'un ou avec l'autre. Et moi, j'ai justement vécu une médiation où la médiatrice a pris parti et c'était insupportable parce que du coup, la médiation était complètement par terre, de mon point de vue, sauf que ça a mis du temps à vraiment se révéler comme ça. Et que finalement, ça a été un échec parce que ça ne pouvait pas être autre chose, vu les polarités qu'il y avait. Et à partir du moment où le médiateur prend parti, c'est foutu, quoi.
C'est fini.
Ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de raconter, c'est que là, toi, tu parles d'un rôle qui est le rôle de facilitateur. Moi, je te parle d'un rôle qui est le rôle de médiateur. J'ai parlé tout à l'heure de la posture de l'adulte, qui est une redevabilité très concrète lorsqu'on vient interagir avec les enfants à la ferme des enfants au sein de l'école. Et finalement, ces postures qui sont encadrées par des rôles, peut-être qu'on peut s'en inspirer aussi pour se dire « j'ai aussi un rôle dans mon collectif, j'ai aussi un rôle dans ma communauté humaine qui nécessite aussi de très hautes qualités pour pouvoir fonctionner harmonieusement ». Et que l'espace du collectif, c'est pas forcément l'espace où on va déverser tous ces traumatismes, ces émotions souffrantes, ces revendications, ces blessures psychologiques, etc., qu'on a tous. Mais c'est aussi peut-être un espace où la posture a besoin de se manifester pour protéger les autres et protéger le collectif de quelque chose qu'il ne pourrait pas gérer.
Donc en fait, c'est une posture de responsabilité.
C'est une posture de responsabilité,
exactement. J'entends beaucoup ça dans ce que tu dis, et effectivement, ça renvoie vraiment à la notion même de citoyenneté, tu vois, quelque part.
Complètement.
C'est-à-dire, nous, on essaie de la poser déjà dans un cadre qui tend vers incarner une autre façon de vivre, un nouvel art de vivre, avec des pratiques qui reflètent un certain nombre de valeurs, mais sur, évidemment, prendre soin de la terre, prendre soin des autres, etc. Mais du coup, comme on a affiché ça, comme c'est ça qu'on propose quand même, c'est sur nos documents, c'est sur nos sites internet, etc. Bon, très bien. Ok, ben ça veut dire qu'il y a vraiment, quand j'entre dans la relation à ce collectif-là, il y a une relation de responsabilité aussi que je dois manifester à minima, en fait. Parce que sinon, surtout ici, dans ce collectif dont le cœur est une école et la relation à l'enfant, où on travaille vraiment des zones, on va dire, assez pointues sur ces sujets-là, où on va chercher à ne pas dominer l'autre par sa force, que ce soit verbale, physique, psychologique, etc. Donc ça met la barre un peu haut, c'est vrai. Et en même temps, c'est d'autant plus le cas que ça doit nous imposer du coup une forme de responsabilité.
Oui, c'est ça. Et peut-être que c'est aussi la définition d'être adulte. Peut-être que être adulte, c'est être en responsabilité de ce qui nous arrive, de ce qui nous traverse, de ce que l'on vit intérieurement, de ce que l'autre, les autres et les situations nous font vivre. C'est comment je vis en responsabilité avec tout ça.
Et donc, ça ouvre même la porte à des incohérences. Parce que tant qu'il y a la responsabilité, moi, ça m'arrive de ne pas être à la hauteur de ce que j'aimerais être, par exemple, d'un point de vue du comportement, de commettre des fautes comportementales, hein, c'est-à-dire des comportements blessants ou des choses que je n'ai pas vraiment mesurées, mais ma responsabilité, c'est de le corriger. C'est de le corriger à la fois sur moi, mais aussi d'aller vers l'autre pour réparer, entre guillemets, restaurer quelque chose si je vois que le lien a été abîmé. À ce moment-là, ma responsabilité, c'est aussi de pouvoir provoquer des espaces de réconciliation, de restauration.
Du coup, ça pose aussi la question de que fait un collectif face à une ou plusieurs personnes qui ne prend pas ses responsabilités et quelles sont les solutions, qu'est-ce qui pourrait venir prendre soin de ça?
Aujourd'hui, on a choisi de se laisser du temps. C'est-à-dire que c'est un grand luxe qu'on se donne à l'Oasis, c'est de se laisser du temps. Quand on voit des dysfonctionnements, on met des mots dessus quand même. On prend notre rôle du coup de gardien, enfin on a un certain nombre de règles et dans notre gouvernance hein, du coup qui nous permettent de mettre des mots dessus de manière assez formelle, assez solennelle même, mais en essayant vraiment de travailler sur le non-jugement, mais qu'en même temps on pointe certaines choses qui ne sont pas acceptables en fait en l'état dans cette oasis-là, notamment eu égard à la pédagogie et aux enfants qu'on va bientôt accueillir. Après ça, une fois qu'on l'a pointé, on va se laisser du temps pour voir comment ça se transforme. Et aussi la confiance qu'on va pouvoir mettre en l'autre, qu'il est capable, suite à ce qu'on a pu voir, tout suite à ce qu'on a pu traverser comme situation difficile, et suite aux mots qu'on a posés dessus, voir qu'on a posé toi et moi, voir ce que le groupe a posé comme mots, puisqu'on fait aussi, on pratique des cercles de parole, des choses comme ça, qui viennent justement mettre de la conscience sur les endroits qui sont difficiles. Et après ça, on est plutôt sur un pari, qui est que les personnes concernées par ces problèmes, hein, parce qu'il y a quand même des acteurs ou des actrices qui occasionnent ça, on va essayer de voir comment ça évolue dans le temps, plutôt que de prendre des décisions qui pour nous arrivent souvent beaucoup trop vite. Et bon, c'est souvent aussi le reflet de notre histoire, hein, on nous renvoie souvent ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que nous-mêmes qui avons été expulsés d'un lieu, on n'est pas du tout prêt à expulser des gens. C'est pas notre façon de voir ici à l'Oasis. On a plutôt envie de se laisser le temps de faire évoluer les choses dans le bon sens.
La proposition qu'on fait là, c'est pas forcément d'avoir une posture uniforme, monochrome, et parce que là, du coup, on reviendrait vraiment dans la définition du bien qu'on essaye d'éviter pour pouvoir accueillir ce qui est vivant chez chacun. Donc c'est pas ça non plus. C'est vraiment de pouvoir avancer ensemble avec toutes les formes et toutes les couleurs en présence. C'est comme un peu une pâte qu'on pétrit et qui vont poser vraiment, mettre au centre des questions de posture, des questions de comportement, des questions de préjudice, des questions d'insécurité, etc. Et le travail qu'on fait, c'est pas de dénoncer tout ça et de s'en séparer parce qu'on veut un monde lisse, uniforme et idéal. Mais c'est plus que chacun puisse reprendre sa responsabilité là où elle est, pour lui et pour elle. Voilà, chacun. Il n'y a pas que les personnes qui sont les plus en difficulté qui ont à prendre cette responsabilité. C'est vraiment chacun là où on est. Chacun dans ses rôles, dans ses fonctions, dans son quotidien, dans ses interactions. Voilà, comment est-ce que je fais pour prendre... Il y a des choses qui me déplaisent profondément, il y a des choses qui me choquent, qui me heurtent, qui me conviennent, qui ne me conviennent pas. Comment je fais pour prendre mes responsabilités vis-à-vis de tout ça? Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas ni tendre vers un idéal préfabriqué, prépensé, qui répondrait à une certaine définition. Ce n'est pas non plus renoncer et laisser vivre et laisser faire tout, y compris des choses qui nous font violence ou qui ne nous conviennent pas. Mais c'est vraiment une matière vivante dans laquelle je vais rechercher à quel endroit j'ai ma responsabilité et comment je la fais valoir, en fait. Comment je la fais vivre.
Je me rappelle d'une bénévole qui nous avait fait le retour une fois sur le chantier participatif et qui nous avait dit, mais il y a comme un mécanisme chez vous, vous êtes gentil, 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 puis à un moment donné, c'est comme si ça allait trop loin et puis que vous avez dit oui à plein de choses qui n'étaient pas vraiment OK. Et du coup, d'un coup, vous allez, comme un, y a un, comme un couperet qui tombe et ça va être vécu en violence en fait par les gens autour de vous. Et c'est ça, ne pas prendre ses responsabilités. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a pu être très agissant dans mon histoire de direction d'école et qui a pu stimuler pas mal de conflits. Ou à mot d'aiguille, c'est que j'avais une interprétation de la bienveillance qui était de dire presque toujours oui, oui, et de ne pas me positionner en responsabilité de ce que vraiment j'avais choisi d'accomplir dans mes rôles et dans mon rôle de porteur de projet, de créatrice d'école, de directrice d'école, etc. Et je me suis retrouvée par exemple avec dans mon équipe pédagogique des personnes que j'avais pas vraiment choisies, mais qui étaient là, qui éventuellement étaient habitantes au hameau et pour qui j'ai pas eu le cœur, ni la force, ni le courage de dire non en responsabilité de mes fonctions de direction dans cette école, tu n'as pas le profil ou tu ne réponds pas aux critères qui sont les miens. Donc, je n'ai pas pris la responsabilité de mes rôles à ce moment-là et je me suis retrouvée avec des situations inextricables, très douloureuses, de devoir à un moment donné, beaucoup plus tard dans le temps, me positionner pour dire à ces personnes, en fait, ça va pas, ça convient pas, ça ne répond pas aux besoins ou à l'idée que je me fais de la manière dont cette école doit fonctionner. Et c'est ça aussi qui crée du conflit dans l'absence de prise de responsabilité à 100%. Donc 100% responsable, c'est 100% responsable aussi de dire non. C'est 100% responsable d'assumer ce que l'on fait, ce que l'on représente. Et depuis, j'ai appris à être beaucoup plus claire avec les personnes. Et cette peur du conflit que j'avais, peur de m'opposer, peur de dire non, mais petit à petit, je me suis rendu compte que certes, ça fait vivre parfois un moment assez inconfortable dans le présent d'une discussion où il faut dire non. Et après, il y a beaucoup plus de respect et une responsabilité qui grandit pour chacun. Parce que quand une personne n'a pas pris une place, par exemple, qu'on ne lui a pas donnée en raison de nos fonctions, si je suis directrice d'une école, je suis légitime pour dire non, tu n'as pas ta place dans cette équipe, par exemple, eh bien, la personne, elle va prendre ses responsabilités en fonction de ça et pouvoir se tourner vers autre chose, redéfinir ses projets, etc., etc. Mais moi, j'avais tellement cette propension à vouloir tout accueillir, faire le bien, être gentille, avoir peut-être être aimée aussi, avoir l'approbation de l'autre en l'approuvant de mon côté, que je me suis enlisée et perdue et que au final, ça a été extrêmement violent.
Donc on voit bien qu'à chaque fois, on retombe vraiment sur cette histoire d'angle mort. Si on ne prend pas sa responsabilité, on peut être sûr que derrière, ça va revenir sous une forme ou sous une autre, en fait, hein.
C'est
Il y a un
ça.
effet boomerang qui fait qu'il vaut mieux la prendre, quitte à ce que ce soit un peu inconfortable. Surtout au début, quand on apprend à le faire, on ne se sent pas très à l'aise. Mais au final, derrière, tout le monde en sort grandi.
C'est ça. Et c'est vraiment l'invitation aussi dans les cercles où l'on prend des décisions en gouvernance dynamique ou autre, où chacun est invité aussi à prendre la responsabilité de ce qu'il vit, dans ses rôles, dans son collectif, etc., et de venir l'amener en responsabilité par sa parole au centre des espaces décisionnels.
Et c'est là aussi où c'est plus facile, je dirais, même humainement, pour s'entraîner, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le cadre du professionnel. Quand on est en gouvernance dynamique, parce qu'on a vraiment une raison d'être au centre, etc., que la culture, elle est posée par le dirigeant, que c'est plus le dirigeant qui dirige, c'est la raison d'être qui doit être notre référentiel. Donc du coup, ça amène les gens à libérer un espace à l'intérieur même d'eux-mêmes, qui leur permet de dire, bah, moi, en tant que rôle, j'ai un problème dans telle et telle situation, mais j'ai le courage de le faire parce que je sais que je le fais au service de la raison d'être. Et
C'est
c'est
ça.
plus face à un manager qui va me fusiller du regard si j'ose dire des choses comme ça. Là, au contraire, le postulat, c'est que toute tension est bonne à dire si elle permet l'amélioration et si elle est au service de la raison d'être.
Et il y a une désidentification, c'est-à-dire que la personne ne se sent pas attaquée s'il y a un manquement dans son rôle ou quoi, parce que c'est plus facile de se désidentifier quand on parle de rôle à rôle.
C'est ça.
Mais quelque part, l'invitation, ce serait de faire de même dans la vie quotidienne avec les gens qu'on côtoie ou les relations qu'on a autour de nous. Et qu'il n'y ait pas cette identification entre le comportement et la personne. C'est pas tu es une mauvaise personne parce que tu as un mauvais comportement. C'est vraiment bah, ce comportement-là en tant que tel, voilà ce qui me fait vivre et voilà quel inconvénient il a. Et du coup, on va pouvoir aller vers des solutions constructives qui ne remettent pas en question l'être qui est en face de soi, la personne qui est en face de soi, mais juste le comportement. Et du coup, ça crée de la sécurité aussi dans les échanges.
Bon.
Voilà pour ce sujet de la posture. On n'est sûrement pas exhaustif, bien sûr, dans notre déroulé. Et donc, on vous invite, comme d'habitude, à poster vos réactions, nous faire des petits mots pour nous dire comment c'était pour vous et quelle est votre expérience avec ça. Merci de nous avoir écoutés.
Merci, à bientôt.